Alors ça fait plaisir de se retrouver, même si on termine un cycle avec la fin du livre de Josué. Et on a pu voir ce résumé express, mais excellent dans le panorama qu'il nous donne. Si vous voulez retrouver ces résumés, il y a d'autres résumés sur les livres de la Bible. Ça s'appelle Bible Project. Comme ma super prononciation vient de le dire, c'est en anglais. Mais ils ont l'intention de plus en plus de pouvoir aussi le faire profiter à d'autres langues, dont le français. Donc peut-être qu'à l'avenir, on aura même le descriptif qui sera tout en français. Et donc on a pu voir en fait combien Dieu a été présent avec le peuple depuis le début de l'histoire de l'humanité, mais particulièrement dans ce livre de Josué qui nous intéresse. Et ce matin, on va s'arrêter sur les deux derniers chapitres. Alors comme vous avez bien regardé la fin, j'ai plus besoin de rien dire. Et voilà. Alors, non, parce qu'on va le lire quand même. Hein. C'est les deux discours d'adieu donc que Josué donne au peuple d'Israël. D'abord aux responsables du peuple, et puis après avec tout le peuple, les responsables compris. Alors, ces deux interventions, elles sont intéressantes parce qu'elles font le bilan de l'action de l'Éternel depuis la conquête de Canaan, mais même plus largement depuis Abraham et les promesses que Dieu avait fait à Abraham, et qui trouvent leur accomplissement ici, dans ce livre de Josué. Qui dit bilan? Pour pouvoir faire un bilan, il faut faire des constatations, hein? Mais l'objectif n'est pas juste de faire un bilan, mais aussi d'en tirer les leçons. Quelles sont les leçons que l'on peut retenir de l'action de l'Éternel au travers de cette expérience que le peuple a vécue avec Josué? Leçons à en tirer et donc aussi décisions à prendre. Et c'est un petit peu ces trois axes qui regroupent ces deux discours, c'est faire le bilan, constater l'œuvre de l'Éternel, tirer les leçons et puis se décider pour la suite. Et quelque part, il y a une sorte d'obligation de pouvoir faire ce travail d'une manière honnête et objective, parce qu'on ne peut pas avoir vécu l'extraordinaire de Dieu pendant des années et puis de se dire, ben bon, ouais, mais c'était normal finalement. Voilà, et la vie continue. Non, ils ont vécu des choses extraordinaires pendant toutes ces années, pendant cette conquête, et quelque part, c'est le minimum de devoir faire ce bilan. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu nous a donné ce texte? Pourquoi Dieu a veillé sur sa parole pendant des siècles et des siècles pour que ce texte nous parvienne jusqu'à nous ce matin? Tout simplement pour que on puisse, nous aussi, constater ce que a constaté les Hébreux de ce moment-là, de voir l'extraordinaire de Dieu et de se dire, ah oui, c'est pas commun. Et si c'est pas commun, ben faisons le bilan, tirons les conclusions et prenons des décisions. Et Dieu ne va pas refaire le même chemin qu'il a fait avec Abraham et avec tout le peuple sur des années pour chacune de nos personnes d'une manière individuelle. Hein. Dieu, au travers d'Abraham, a donné un exemple qui va servir pour l'histoire de l'humanité. Donc notre rôle à nous, c'est de constater ce que Dieu a fait au travers de l'histoire d'Abraham et du peuple pour que nous, on en tire des leçons. Dieu ne va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un être humain qui naît, toute la démarche qu'il a fait avec Abraham. C'est pour ça que c'est important que nous, on puisse prendre connaissance de ce que Dieu a voulu nous laisser. Et puis aussi, peut-être qu'on peut se dire, Dieu a été extraordinaire dans le parcours avec Abraham et le peuple d'Israël, mais il l'est aussi avec moi. Et de se dire, mais ah oui, ce que Dieu a fait vivre à ce peuple, il le fait vivre aussi à nous, et de voir combien Dieu est vivant, Dieu ne change pas, et aussi de faire le même schéma, de tirer un bilan, tirer des conclusions et prendre des décisions. Alors j'espère que de temps en temps, on fait ce type de point dans notre vie et que finalement, on n'est pas anesthésié par les obligations de notre quotidien, de notre routine. Et quelque part, peut-être que nos obligations font qu'on rentre dans un train-train et puis que finalement, on ne prend pas le recul de se dire « Ah, mais finalement, c'est quand même hors du commun ce que j'ai vécu avec l'Éternel. » Et ça renforce notre foi avec lui. Alors je vous propose la lecture de Josué, donc au chapitre 23, et on va lire jusqu'au chapitre 24, le verset 15, dans un premier temps. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit « Je suis vieux et je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage pour vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées à partir du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira et les chassera devant vous. Vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. » Juste, je fais une petite pause. Israël est dans le pays de Canaan. Ils ont conquis les grandes villes, mais chacune des tribus devra finir la conquête parce que dans tout ce qui est en dehors des grandes villes, les Cananéens sont encore présents. Donc, il faudra continuer la conquête. On a connu les mêmes types de schémas tactiques dans les dernières batailles que les coalitions occidentales ont menées. Bien souvent, on débute et on va vite dans les grandes villes, mais après, le temps de vraiment s'installer dans tout le pays, ça prend du temps et des fois même on n'y arrive pas. Il n'y a qu'à voir en Afghanistan. Hein. Les grandes villes ont été prises, mais finalement, on n'a pas réussi à... Et en fait, Israël était dans le même cas de figure. Ils avaient pris toutes ces grandes villes, là, donc on a vu toute la liste qui était là. Mais chacune des tribus devait encore conquérir ce qui restait au-delà de ces grandes villes. Verset 6. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Un seul homme parmi vous poursuivait 1000 parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'avait dit. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous a dites se sont accomplies pour vous, de même, il accomplira toutes les paroles mauvaises contre vous jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et fait disparaître de ce bon terrain qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térakh, père d'Abraham et de Nakhor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris vos ancêtres, votre ancêtre Abraham, de l'autre côté de l'Euphrate et... je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des roseaux avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux, et elle les a recouvertes. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduit dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, et roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Guirgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les deux rois amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. On poursuivra la lecture tout à l'heure. Finalement, quand on lit ce texte, ça semble assez simple de faire un bilan. Tout simplement, il faut voir, il faut relever les faits, reconnaître leur valeur et leur vérité. Et souvent, la même phrase revient dans ce qu'on vient de lire. Vous avez vu, regardez le chemin parcouru, reconnaissez. Et ça revient souvent, cette invitation que Josué fait au peuple de constater ce que l'Éternel a fait. Et c'est évident que par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, que ce n'est pas une œuvre qui est humaine, c'est vraiment l'Éternel qui a été l'artisan de tout ce qu'ils ont vécu. Et ce n'est pas leur force, ce n'est pas leur méthodologie, ce n'est pas leur croyance qui ont fait qu'ils ont réussi à vivre ce qu'ils ont vécu, mais c'est l'Éternel. L'Éternel a été au cœur de tout ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une religion, c'est une personne, l'Éternel. Et donc, si c'est lui qui a fait ces choses merveilleuses, vous devez lui obéir, vous devez le servir, vous devez lui être fidèle. On pourrait lire ça, mais heureusement, ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte. Car le peuple aurait été invité à vivre d'une manière religieuse, où Dieu n'aurait plus été l'objet de l'attention, mais l'objet de l'adoration, l'objet de la dévotion, aurait été placé à bien obéir, à bien servir ou à bien être fidèle, mais au détriment de la personne de Dieu. Et cette spirale religieuse, c'est le travers de tous les hommes, si on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire de toutes les religions, c'est le travers de l'homme, c'est de rentrer dans cette spirale où je fais quelque chose et quelque part cette démarche me flatte parce qu'en faisant quelque chose, c'est quantifiable si je l'ai fait, donc je peux mesurer ce que j'ai fait. Si j'ai bien obéi, si j'ai bien servi, si j'ai bien été fidèle, ça me tranquillise. Et on entend d'ailleurs souvent ces phrases autour des personnes avec qui on parle. J'ai pas volé, j'ai pas tué, je suis bien allé à la messe de Noël, je suis bien allé au culte, j'ai bien donné ma dîme. Donc des choses qui sont quantifiables, qui me tranquillisent. Mais d'un autre côté, en même temps qu'on se rabâche quelque part notre prétendue exemplarité, il y a toujours un doute. Est-ce que j'en ai fait assez? Et ça, c'est le système religieux. En fait, l'obéissance, le service, la fidélité devient mon Dieu, devient mon idole, devient ma divinité. Et je mets mon énergie à servir l'obéissance, le service, la fidélité. Et quelque part, j'oublie Dieu parce que toute mon énergie est passée à faire et plus à une personne. Et tout le texte que l'on vient de voir nous parle d'une personne qui a été à l'œuvre. Bien sûr, il y a des choses qui ont découlé, hein. Mais on peut vite basculer dans le système religieux en se focalisant justement sur bien obéir, bien servir, bien être comme ci, comme ça. Et il me semble que le verset 11 est capital du chapitre 23. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est parce que vous l'aimez que la crainte sera logique. C'est que l'attachement sera naturel, que l'envie de connaître sa parole, de s'y attacher, de la méditer coulera de source. C'est parce qu'on aime l'Éternel qu'on aura envie de faire quelque chose pour lui, de le servir, et même sans se poser de questions. C'est parce qu'on aime l'Éternel qu'on aura envie de lui être intègre et fidèle. Hein? Toutes ces choses sont des conséquences de l'amour porté à l'Éternel, de l'amour porté à l'Éternel. C'est des expressions de vie et pas des obligations que l'on fait pour se tranquilliser soi. L'objet, ce n'est pas nous, l'objet, c'est l'Éternel. D'ailleurs, c'est un peu un lieu commun de dire ça, parce que en général, quand on aime quelqu'un, on ne se force pas à faire quelque chose pour elle. Quand on aime quelqu'un, on est plein d'imagination, justement, répondre à la relation qui naît entre une personne ou une autre. Et en fait, voilà ce que dit Josué. L'action de l'Éternel, ce qu'il a fait, vous l'avez vu, vous le constatez, continuez à alimenter cet amour avec l'Éternel. C'est ça qui va être le moteur de la suite. D'un côté, aimer, et d'un côté aussi refuser, comme on vient de le lire. Toujours motivé par l'amour. Alors, Jean-Philippe et Sarah, ils se doutaient pas que j'allais les utiliser comme exemple. Ils se sont mariés il y a quelques mois. Jean-Philippe, en se mariant, a dit oui à Sarah. Mais il a dit non à quelques milliards d'autres dames. Sarah, c'est pareil dans l'autre sens avec les hommes. Hein. C'est-à-dire que aimer, c'est dire, c'est faire quelque chose de fort, d'exclusif avec quelqu'un. Et parce que cet amour est intense, et bien justement, le reste coule de source. Et c'est ce que rappelle un petit peu Josué, parce que vous aimez l'Éternel, vous allez logiquement refuser les autres divinités, de parler, de participer à leur culte, de vous marier avec les personnes qui ne sont pas attachées à l'Éternel, parce qu'elles vous entraîneraient vers d'autres divinités. Parce que vous aimez l'Éternel, vous allez faire disparaître les idoles qui sont encore dans vos affaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, mais on est à la fin du livre de Josué, et Josué leur dit, sortez les dieux qui viennent du Père de l'Euphrate, hein, c'est-à-dire c'est les ancêtres d'Abraham. Il y avait encore des divinités, des idoles qui étaient dans les affaires des Hébreux. Et de sortir aussi toutes les croyances et les idoles qui venaient de l'Égypte. Ce qui est d'autant plus stupéfiant que les Hébreux ont été esclaves des Égyptiens, mais dans leurs affaires, il y a encore ces divinités qui traînaient. Hein? Et le peuple traînait ses habitudes, ses traditions, ses idoles, et n'avait pas encore fait le ménage, même si d'un cœur, ils étaient pour l'Éternel. ils traînaient ces choses qui étaient dans leurs affaires. Même après ce parcours extraordinaire, hors du commun, vécu avec l'Éternel. Et quelque part, ça m'a fait un petit peu réfléchir, et je me suis dit, mais, et nous, si on est là, c'est qu'on a envie de rendre un culte à l'Éternel, c'est qu'on est attaché à lui, mais est-ce que dans nos affaires, c'est-à-dire dans nos pensées, il n'y a pas des choses qui traînent et qui ne sont pas conformes ou qui sont en horreur à l'Éternel? Alors là, je ne parle pas d'un gros Bouddha avec des bâtons, je parle d'idoles, hein, des bâtons d'encens qui fument ou des choses de ce type, ou avoir une star, fût-elle excellente au tennis, comme idole ou référence. Hein. Mais plutôt des choses auxquelles on est particulièrement attaché, et même des fois sans qu'on s'en rende compte, au-delà même de notre vie de foi, où ça va même interférer à la simplicité de la vie de foi. Et c'est plutôt peut-être dans des habitudes ou des manières de faire qu'on est foncièrement attaché à certaines choses qui n'ont pas forcément un lien fort avec la vie avec Christ, mais par contre pour lesquelles on va être dur comme fer et pas en démordre. Alors ça peut être des idéologies, ça peut être des idées, ça peut être le travail, ça peut être l'attachement à son pays, à sa nation, à des principes familiaux ou régionaux, ça peut être notre confort, ça peut être nos principes occidentaux, où quelque part on est foncièrement attaché, mais est-ce que c'est en relation vraiment avec ce que l'Éternel demande? Est-ce que notre attachement, je prends un exemple qui me vient là à l'esprit, est-ce que notre attachement à la démocratie est plus important que ce que Dieu nous dit pour vivre en société et comment on doit vivre les uns avec nos prochains. Pas dit que la démocratie était mauvaise, mais notre attachement des fois à certains principes, à certaines choses, ont pris le pas sur la parole de Dieu. Et ce qui arrive fréquemment, c'est qu'on veut faire coller notre pensée à la parole de Dieu, au lieu de regarder la parole de Dieu et de vivre les choses avec simplicité. Et c'est important de faire le point, parce que si on regarde dans ce que l'on vient de lire, Josué dit « Aimez l'Éternel, et si vous l'aimez, servez-le, attachez-vous à lui, etc. » Refusez aussi tout ce qui est des autres croyances. Et le sujet est important parce que pour Israël, ils avaient passé un contrat. On a lu le terme « alliance », mais « alliance » ou « contrat » pour être un peu synonyme. Si le peuple était fidèle, Dieu épaulait le peuple vers les bénédictions auxquelles ils ont goûté. S'ils étaient infidèles, Dieu retirait sa bénédiction et goûtait aux conséquences justes de leur infidélité. Et bafouer Dieu, donc, voulait dire qu'il y avait des conséquences qui étaient derrière. Et je fais le rapprochement aussi à nous. Est-ce que nos pensées qui, des fois, prennent la place de Dieu, etc., est-ce qu'elles n'entraînent pas aussi des conséquences dans nos vies? Hein? Alors, Dieu ne change pas. Hein? Si le peuple d'Israël s'attachait aux idoles, il connaîtrait les conséquences, les mêmes conséquences que finalement les nations cananéennes ont connues par la main de l'Éternel au travers d'Israël. Mais est-ce que pour nous qui sommes de l'autre côté de la croix, après la mort de Christ, après sa résurrection, est-ce que pour nous, il y a le même type de contrat qui est passé avec l'Éternel? Fidélité égale bénédiction, infidélité égale malédiction. Hein? Alors, c'est pas si binaire, parce que si on regarde tout le parcours de la parole de Dieu, on voit combien Dieu a retardé bien souvent de mettre en œuvre son jugement. Il a fait preuve d'une grâce extraordinaire et d'une patience extraordinaire avec son peuple. Mais la question, nous qui sommes de l'autre côté de l'œuvre de la croix, hein, qui vivons ce temps après la croix, après la mort et la résurrection de Christ, est-ce qu'on est dans le même schéma, dans le même contrat? Et bien souvent, quand on lit la parole de Dieu, bien, quand j'écoute des personnes qui ont lu la parole de Dieu, la différence entre ce qui s'est fait avant la croix et ce qui s'est fait après la croix n'est pas bien cernée. Hein. Et l'œuvre de Christ, qu'on célèbre souvent ici en prenant la scène, a radicalement changé notre relation avec Dieu. Hein? On parle de l'ère de la grâce, donc après l'œuvre que Christ a fait par sa mort et sa résurrection. Hein? Même si on n'est plus sous, même si on n'a pas passé le même type de contrat que Israël avait passé avec l'Éternel, pour autant, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'il faut minimiser nos actions. Ah, Dieu est amour, Dieu est ceci, cela, et ainsi de suite, et je fais n'importe quoi de ma vie. Ce que nous faisons, les décisions que nous prenons, ont toujours des conséquences. Hein. Mais ces conséquences ne sont pas forcément une action délibérée et déterminée, voulue, dans le sens que Dieu agit d'une manière spécifique, hein, parce que rien n'échappe au contrôle de Dieu, de la part de Dieu, ou une action spécifique de la part de Satan, quand il nous arrive des choses particulières suite à nos choix. Bien souvent, on ne fait que récolter le fruit de nos décisions. Nos choix, les choix que nous faisons, et Israël était confronté à des choix ici, les choix que nous faisons ont des conséquences. Et des fois, ce n'est uniquement que les conséquences, ce n'est pas une action spécifique de l'ennemi de Dieu qui agit, mais c'est le fruit de nos décisions. Hein. Pour autant, Dieu se plaît toujours à bénir, autant qu'avant la croix. Pour autant, sa justice n'est pas différente qu'avant la croix. Il n'est pas plus laxiste, il n'est pas, Dieu n'est pas plus affûté dans sa justice. Dieu demeure le même. Et si on est, nous, de l'autre côté de la croix, si on est dans cette ère de la grâce, avec une relation spéciale et particulière au travers de Christ avec l'Éternel, que les prophètes auraient aimé connaître et que nous, nous connaissons, pour autant, Dieu ne change pas et nos décisions et nos choix ont des conséquences. Alors, on n'a pas passé un contrat, une alliance comme avait passé Israël, fidélité égale bénédiction, infidélité égale malédiction, mais pour autant, la valeur de nos choix, et Dieu nous fait un énorme cadeau et nous donne une énorme valeur, nos choix ont des conséquences. Et l'impact de nos choix, de décisions qu'on va prendre, eh ben, ont des conséquences. Même si Dieu est amour, même si Dieu est grâce, nos choix ont des conséquences. Alors on n'est pas tout à fait dans le même cadre qu'avant la croix, mais pour autant, ne soyons pas superficiels et ne soyons pas légers. Et les avertissements qui sont donnés ici à Israël, eh ben, à nous de faire aussi le même type de cheminement. Regardez ce que Dieu a fait auparavant et regardez quelles ont été les conséquences de ceux qui se sont attachés à lui parce qu'il aimait. De même, nous aussi, on est amenés à faire la même chose. C'est-à-dire, regardons dans nos vies, dans ce que Dieu nous a laissé. Ah oui, évidemment, l'œuvre et la main de l'Éternel est hors du commun. Et j'espère que ça vous arrive de vous arrêter et de regarder en se disant, oh, c'est quand même pas possible ce que l'Éternel a pu faire dans ma vie. Et se dire, ça renforce notre relation, ça renforce notre envie, voilà, de nourrir cette relation de plein de manières différentes. Et donc, Israël est amené à constater, à remarquer ce que l'Éternel a fait, de faire la synthèse d'une manière objective, et à faire un choix. Et ce choix, on en a la réponse ici, au chapitre 24, verset 15. Et c'est Josué qui commence. À la fin du verset 15, « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Lui s'est positionné. Ce n'était pas la première fois qu'il se positionnait. Hein. Mais à nouveau, il se positionne. Est-ce que c'est d'un cœur entier? Ou est-ce qu'on a quelque chose finalement, la renommée, une bonne ambiance, des amis qui sont plus des moteurs de notre foi plutôt que l'Éternel? La décision que fait prendre ici Josué au peuple, il pose la question, il ne prend pas la décision à leur place, hein, mais il leur pose la question, prenez-le d'un cœur bien sincère. Pas juste parce que ben, on est dans un bon temps et après des victoires, etc., c'est facile de dire, oh, ouais, ben, on va y aller, ça c'est sûr. Non, réellement s'attacher en toute conscience à l'Éternel. Et finalement, à quoi ou à qui sommes-nous attachés? À quoi ou à qui sommes-nous attachés? Est-ce que c'est à l'environnement, au succès comme Israël l'avait goûté, ou est-ce que c'est réellement à l'Éternel? S'il y avait moins de succès, si l'Église marchait moins bien, ou s'il y avait des choses comme ça, est-ce que je serais toujours aussi attaché à l'Éternel? Ou est-ce que finalement, c'est plutôt au contexte auquel je me suis attaché? Ou à une théologie? Ou à une idée que je me fais de Dieu? Où est-ce que je suis réellement attaché à l'Éternel? Et c'est un peu ce style de question que Josué pose au peuple. Je finis la lecture au verset 29, chapitre 24 toujours. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Il était âgé de 110 ans. On représente, juste une petite parenthèse, hein, puis c'était marrant de le voir aussi dans le résumé. On représente souvent Josué comme un jeune guerrier. Josué était quand même, je pense que la conquête, parce que une bonne partie de sa génération est décédée, Josué était plus après 8 ans que 36 ou 24 ans. Hein. Donc, il meurt, il est âgé de 110 ans. Donc, ça donne des belles perspectives pour tous ceux qui sont à la retraite. Hein. Vous n'avez pas un pays à combattre. On l'ensevelit dans le territoire dont il avait hérité, à Timna-Zérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph, et il fut enterré à Sichem dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on enterra à Gibeath-Phinée. Cette colline avait été donnée à son fils Phinée, et se trouvait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Voilà des indications que l'on passe, que l'on lit comme ça, c'est intéressant. Mais j'attire votre attention au verset 31. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous détectez dans ce verset 31? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque, qui va revenir après? Alors je vous aide, hein. Donc il est dit que toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Tournez la page, ou peut-être que c'est sur la même page, et vous arrivez au livre des Juges. Il s'est levé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel et qui fit n'importe quoi. Ça, c'est ma version. En fait, l'idée de connaître, c'est pas avoir eu écho de ce qui s'est fait, mais c'est d'expérimenter avec Dieu, c'est de vivre avec Dieu. On connaît quelqu'un, on peut m'en avoir parlé, mais quand j'ai vécu avec quelqu'un, je peux dire que je la connais. Et c'est dans ce sens-là qui est ce verset est marqué. Et cette génération, évidemment, a connu l'intervention de l'Éternel, mais chaque génération, on est appelé aussi à vivre et pas se reposer sur l'histoire qui nous a précédés. Pareil pour les histoires d'associations d'Église. On n'est pas, nous, c'est très beau ce qui a été vécu dans les générations passées, mais nous, on est aussi appelés à vivre quelque chose pour qu'on puisse expérimenter la main de l'Éternel. Et malheureusement, le livre des Juges nous ouvre à les travers dans lesquels Josué les avait prévenus dans ses chapitres. Pour ça que ces chapitres 23 et 24, si vous lisez le livre des Juges, il est capital de relire les chapitres 23 et 24. Malheureusement, le peuple va se détourner et donc Dieu, comme il tient parole, les nations qui sont à côté vont prendre le dessus. Alors, ils vont crier à l'Éternel, dans sa grâce, Dieu va donner des libérateurs, ainsi de suite. Mais on va retrouver aussi un problème avec les idoles qui sont restées. Hein. Le cœur n'était pas entier à l'Éternel. Et pour autant, Dieu ne change pas. Et à ceux qui le prennent au mot, qui s'attachent à lui, Dieu va faire de grandes choses dans ce magnifique livre des Juges. Et c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, même s'il y a des passages qui sont un petit peu bizarres ou sombres, mais de voir comment Dieu a été le même que dans le livre de Josué, au travers d'une génération qui ressemble beaucoup à ce que nous connaissons, nous, maintenant. Et bien que ces deux derniers chapitres puissent nous donner aussi l'idée de faire le point d'un cœur sincère avec Dieu et de prendre décision aussi avec lui.